The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Eh bien, bonsoir à tous. C'est votre émission Bang Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis. Les mercredis, une fois tous les 15 jours, de 19h à 20h. Salut Pablo.
Et salut Seb. Alors, on n'est que tous les deux aujourd'hui, puisque Seb et Anaïs sont indisponibles, mais ils sont avec nous dans le cœur.
Dans le cœur, et on leur fait un petit coucou, bien sûr.
Et donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Hein.
Oh, on va essayer de parler de beaucoup de choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a au programme?
Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans notre panier, hein? Qu'est-ce qu'on a dans notre petit panier?
Eh bien, on va avoir de la musique, de la très bonne musique. On va avoir des présentations de films, une petite sélection que je vous propose. Des BD.
Tout à fait, deux bandes dessinées, comme d'habitude.
Clairement. Un roman, un très beau roman là, que je suis en train de lire et qui est vraiment que je vous invite à lire. Et puis, bien sûr, je vais parler de la dernière, les cinq derniers épisodes de la saison 5 de La Casa de Papel. Ouais.
Eh bien, c'est parti et je propose de commencer tout de suite par un petit peu de musique.
Yes.
Et on va commencer par un petit morceau de Franz Ferdinand.
Ouais.
Le titre, Pablo?
Take me out, bien sûr, sur Bang Geek Mafia, Radio G 101.5.
Yeah.
Eh bien, oui, un petit peu de musique. Donc, tu peux redire le
oui,
titre.
Oui, c'était Franz Ferdinand, Take Me Out. Évidemment, voilà, enfin, un petit classique de la pop anglaise.
Ça nous fait du bien, tout ça.
Ouais.
Donc, on va commencer avec un petit peu de cinéma,
ouais.
Finalement.
Une petite présentation de film.
Allez, attends, je te trouve un petit truc. Là, tu vas voir. Écoute ça.
9, 8, 7, 6. Pas mal.
Eh oui, c'est parti.
Alors, c'est parti. Donc, effectivement, bon, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui passer hors la sortie de Spider-Man No Way Home. Alors, je vous lis en fait quelques petits synopsis pour vous allécher. J'ai fait une petite sélection de films. Donc, Spider-Man No Way Home. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.
Voilà. Mmh. Et que veut dire Spider-Man ?
Voilà.
Qui es-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Voilà. Dans quelle toile es-tu ? Voilà.
C'est exactement ça. Bon, sinon, autre film, West Side Story. Un remake de West Side Story par le grand Steven Spielberg qui est sorti dans les salles il y a 10 jours, je crois. Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent. Les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. Alors sachez que bon, je pense que tout le monde connaît West Side Story ou a entendu parler de cette grande comédie musicale. Et notamment de la magnifique musique. Bon voilà, c'est des airs hyper connus, donc vraiment voilà, ça a l'air très sympa, je vous invite à aller voir, sans doute qu'on aura l'occasion de chroniquer ces films un peu plus tard.
Il faut dire aussi en même temps qu'apparemment le réalisateur, qui n'est autre que
Steven Spielberg,
a été biberonné par ce film dans sa famille, donc c'est pour ça qu'il fait ce remake, tout en respectant apparemment vraiment l'œuvre de départ. Je sais aussi qu'il y a en même temps une des actrices qui a donc joué dans le West Side Story qui va revenir aussi rejouer dans cette nouvelle adaptation.
Absolument.
Et donc apparemment c'est pas mal. Au niveau des décors aussi, les décors sont faits en réel dans des quartiers encore de New York qui datent à peu près, qui restent finalement au reflet de ces années 50-60 à peu près, et apparemment ça a l'air d'être pas mal. Bon, de toute façon,
ouais, carrément. Et c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est intéressant parce que c'est il y a à la fois, bon, Steven Spielberg, il a plus grand chose à prouver, mais en même temps se réattaquer à un monstre et puis un vieux rêve d'enfant se réattaquer à ce tout en respectant et en faisant le lien par cette actrice, je trouve ça assez alléchant. En tout cas, très intéressant dans la démarche artistique, quoi.
Là, je vous remets la bande annonce du film de 1960.
I love Tony.
Spix, Mick, moi!
Somebody stop him! Maria!
Maria,
Maria, Maria.
Excellent. Bon, sinon, je vais vous parler aussi d'un documentaire. Un documentaire qui s'appelle La Panthère des Neiges.
Ah oui, oui.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Meunier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. Donc voilà un documentaire, je crois, assez, assez contemplatif. N'allez pas forcément chercher de l'action, mais plutôt de la contemplation, de la beauté dans les paysages, dans cette recherche, et puis évidemment dans cet animal mythique qui est assez fascinant.
Ou autrement, aller directement au Bioparc, ça sera plus simple pour la voir.
Voilà.
Non, je vais vous passer la petite bande-annonce en attendant de la Panthère des Neiges.
Bouge pas. Dans les yaks, ils nous ont vus, c'est certain.
Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la Panthère des Neiges.
This world has ears and rocks have eyes.
En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
The world is a bush full of fire.
Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher.
Nature loves to hide.
Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre.
We are not alone.
Elle a vu passer. Quoi, elle est là. Elle nous observe. Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as ?
C'est un saisissement du cœur.
Ouais, c'est chouette.
C'est tout ce à quoi on a renoncé.
Ouais, avec une belle musique en plus.
Ça a l'air bien sympa. Moi, ouais. Je viens de voir les images là, sur la bande-son. Honnêtement, bah, ça doit être un bon petit moment. Hein. Dans ces moments de déprime, ouais, comme on peut dire, un peu monde un
d'évasion.
Peu du, d'évasion.
Ouais.
Là, c'est bien. Là, c'est l'évasion.
Ah oui,
pure
puis je pense qu'avoir sur grand écran, ça doit être assez grandiose pour les paysages, ouais. la beauté, justement.
Là, apparemment, les animaux sont bien mis en avant aussi en même temps. Donc, non. Moi, je disais ça en rigolant, aller au bioparc pour voir la Panthère des Neiges. Mais après tout, autant aussi aller au cinéma et passer un bon moment.
Alors, un autre film. Je vous parle de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Effectivement, le grand réalisateur espagnol sort en fait un nouveau film. Il s'agit de deux femmes, Janice et Anna, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Madres Paralelas, soit Mère Parallèle en français, le dernier film d'Almodóvar croise les thématiques de l'histoire, de la mémoire et de la maternité à travers la figure de deux femmes qui tombent enceintes en même temps mais entretiennent des relations différentes au passé espagnol. Un film subtil et émouvant qui décline cette réflexion sous trois angles: la disparition, la transmission intergénérationnelle, le devoir de mémoire et la possibilité du deuil. Donc voilà des thèmes assez chers à Almodóvar, avec la très belle Penélope Cruz. Donc voilà, ce qui ne gâche rien.
Déjà rien que pour ça, on y va.
Voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un animé.
Ah.
Cette fois, je suis assez éclectique. Hein. On est dans une émission éclectique.
On a besoin de le rajouter. Nous, c'est le 110 mètres haies qu'on aime bien.
Absolument. Donc cet animé, c'est Où est Anne Frank, d'Harry Folman. Après l'éblouissant Valse avec Bachir en 2008, je suppose que l'historien que tu es a vu ce magnifique animé.
Bien sûr.
En fait, ici Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s'était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenu depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Muni du précieux manuscrit qui rappelle ce qu'Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter qui vient en aide aux réfugiés clandestins. Elle découvre alors, sidérée, qu'Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec des nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d'Anne Frank sens, vie et espoir. Bon, voilà, un animé qui me semble assez intéressant parce que, enfin, moi, je suis resté sur ce documentaire assez éblouissant qui était son animé Valse avec Bachir. Donc voilà, ça m'a tout de suite attiré l'œil.
C'est pas tiré aussi parce que il y a une bande dessinée qui est sortie aussi en même temps sur Anne Frank qui reprend justement où est Anne Frank, qui est Anne Frank, je sais plus, j'ai plus le titre exactement.
Eh bien, ouais, moi aussi.
Je suis en train de me demander.
J'ai vu cette BD, oui, tout à fait.
À vérifier
le lien.
Ouais, on vérifiera.
On vérifiera. Ouais. Comment dire, fact checking. Ok. Et puis enfin, je vous propose un documentaire qui s'appelle Animal de Cyril Dion. On reste chez les animaux. Il s'appelle Animal. C'est celui qui avait fait Cyril Dion. C'est celui qui avait fait Demain avec Mélanie Laurent en 2015. Film écologique. Et ici, vous allez voir, on revient un peu sur cette thématique. Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces. D'ici 50 ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème, notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est lui aussi un animal.
L'homme est un animal pour l'homme. Ouh là là. Eh bien, écoute, tu peux nous redire à peu près donc la petite liste,
la petite
ou du moins
liste. Sans problème. Alors, Spider-Man No Way Home, West Side Story, La Panthère des Neiges, Animal de Cyril Dion, et puis Madres Paralelas, et enfin, où est Anne Frank ?
Ouais, où est Anne Frank ? Eh bien, moi, je te propose justement de continuer avec un petit morceau de musique qui s'appelle Natural Mystique.
Ah oui, bah oui, il nous faut de la nature,
il nous faut du mysticisme.
Natural Mystic, spéciale dédicace à Flo sur Bangis Mafia
105, la radio qui fait le point. Et c'est parti.
Natural mystic flowing.
Et oui, eh bien, c'était Bob Marley. Hein,
juste... Natural Mystic.
Natural Mystic. Alors, la semaine dernière, on avait un invité dans notre émission.
Oui, le street artiste Waldo, qui nous présentait à la fois son travail, son... Comment dire, c'est il y a deux semaines, en fait. Hein.
C'est il y a deux semaines, c'est vrai. C'est...
Et son... à la fois sa démarche artistique, ses œuvres, et puis, enfin, qui nous invitait à découvrir ou à redécouvrir sur Angers. Et puis, il nous présentait aussi ses podcasts, puisqu'il a fait des podcasts. Et là, tu nous en proposes un.
Eh bien, moi, je vous en propose un. Et puis, on reste un petit peu dans la thématique, là, puisqu'on était parti sur Natural Mystic.
Ouais.
Et là, Waldo nous propose un mystérieux topic. C'est maintenant, c'est parti, c'est sur Radio G101.5.
La radio qui fait le point.
Qui fait le point, point.
Radio G. Oh, nous sommes-nous.
Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Bonjour. Vous vous intéressez aux mosaïques de Waldo ? Il n'est pas là aujourd'hui et c'est moi, Alcibide, qui vais vous présenter une de ses créations. Alors, voyons voir, où ai-je mis cela ? Les contes de Munchausen ? Non. Envoûtement et sortilège d'Armien. Ah, ça y est, je l'ai. Le mystérieux Topic. C'est l'histoire de Topic, un être un peu particulier. Si vous vous êtes déjà aventuré dans la rue Baudinier, vous l'avez peut-être croisé. Cela ne vous dit rien ? Allons, avancez jusqu'au bar L'Alambic électrique. Connaissez-vous ce lieu ? Une taverne remplie de créations originales qui sortent des murs, descendent du plafond ou volent au milieu d'une atmosphère tamisée. C'est sur le mur à côté de cette taverne que vous trouverez Topic, un personnage mystérieux. La première chose qui vous frappe en le voyant, c'est son œil, unique, central, rivé sur vous. De cet œil se détache ce qui semble être des membres, deux bras et une jambe filiforme. Jambe qui repose sur un grand pied et qui fait penser à un pied de verre à vin. Mais maintenant, venons-en aux couleurs. Topic est, comment dirais-je, bariolé. Oui, tout son corps est bariolé de bleu et de orange. Maintenant, portons notre attention sur ses bras. Tous deux partent au-dessus de son œil. L'un aboutit à ce qui semble bien être une main, avec un doigt qui invite notre regard à se diriger vers ce que porte l'autre main. Mais cette seconde main, mes amis, n'en est pas vraiment une. Du moins, celle-ci est totalement plate. Elle forme, à n'en point douter, un plateau. Oui, vous savez que, comme un plateau de serveur, hein, oui. Lors de son apparition, eh bien, vous savez quoi ? Ce plateau était vide, ce qui provoquait une certaine confusion chez l'observateur. Ou peut-être que tout simplement, cet étrange cyclope est un serveur échappé de la caverne de l'Alambic et qui nous demande ce que l'on souhaite boire. Oui, ça doit être ça. C'était là la meilleure explication quand on le regardait. Mais tenez-vous bien, quelques semaines passèrent et un beau matin d'hiver, quelque chose est apparu sur le plateau. Et point un verre de vin, comme nous aurions pu l'imaginer. Non, ce qui a fait son apparition, c'est un cœur. Quelle surprise ! Un beau cœur rouge est venu remplir tout le plateau. Quel est le sens de tout cela ? Un plateau vide intrigant, d'où finit par émerger la demeure de l'âme. L'explication qui me vint fut simple. Topic nous offre son cœur sur un plateau. Je vous avoue avoir été touché en découvrant cela. J'avais de l'affection pour cet être étrange, mais quand ce cœur est apparu, à mon œil, une larme a vu le jour. Bien, il est l'heure pour moi de vous laisser. J'ai affaire.
«
Dans un instant, un nouveau...
C'était donc Waldo.
C'était Waldo, 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 Waldo.
Et ça s'appelle déjà, rappelle-nous le titre.
Alors, c'est Mystérieux Topic.
Mystérieux Topic.
Alors, vous pouvez effectivement retrouver sur le site de Radio G, www.radiog-fr, ouais. On peut dire, vous pouvez retrouver ces petits podcasts de Waldo. Ouais. Donc là, nous en avons proposé un, il y en a d'autres aussi. Allez écouter, c'est assez sympathique. Ouais. Et puis, ça permet de découvrir un petit peu l'œuvre, finalement, et puis l'univers de Waldo. Alors, on a des récriminations de la part des auditeurs.
Ah oui,
ouais,
disons-le franchement,
là, ils trouvent que la programmation musicale n'est pas super, il faut qu'on se rattrape. Et moi, pour se rattraper, je pense qu'on va être pas mal, là. Je pense qu'on va bien se rattraper. Hein.
Ça devrait être bien, là.
Je fais un petit coucou encore à Florence, parce que là, ouais. Donc, effectivement. Donc, moi, je propose les Ramones, I Wanna Be Sedated.
Yes,
voilà.
Sur Band Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée sous vos yeux et que vous n'avez pourtant pas
voilà, c'était les Ramones.
Les Ramones.
Je pense qu'on a récupéré notre auditeur,
cool.
Notre auditrice. Donc voilà. Alors ben maintenant, on va passer un petit peu à la suite de notre émission. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme petit générique? Qu'est-ce que tu aimerais bien comme petit générique? Eh ben, il y a celui-là.
You call me? Well, if you give me a chance, I was going to call you a crazy pig fucking dumbass. Pussy piece of shit!
Oh, brother, he's a dead man.
Il prend cher.
Alors, on va parler un petit peu de bande dessinée et je vais commencer avec une bande dessinée qui m'a été prêtée par Seb, justement, et là, franchement, vraiment super. Love in Vain, Robert Johnson, 1911-1938, de Mezzo et J.M. Dupont. Donc c'est l'histoire justement de Robert Johnson, hein, le jazzman qui aurait vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare. Et donc là on se retrouve plongé finalement dans l'Amérique profonde du début du XXe siècle, Amérique profonde du Sud bien sûr, avec cette ségrégation très forte dans ces états, avec des moyens pour essayer de se sortir de cette misère pour les populations noires. Et bien la seule solution possible, c'est éventuellement de faire de la musique, et notamment du jazz qui prend son essor aussi. On est au tout début du jazz, et donc voilà, on suit notre personnage Robert Johnson, donc personnage qui est donc quelqu'un de réel dans sa vie, et on voit que effectivement la vie a été compliquée pour lui. La vie a été compliquée, mais c'est vrai que quand il a réussi enfin à éclairer sur la scène par sa musique, il a vécu quoi en brûlant la chandelle par les deux bouts, hein, quoi, directement. Donc il n'est pas étonnant que, si on calcule bien, il est mort à l'âge de 27 ans, et c'est pas surprenant non plus.
Ah oui, voilà. D'accord. Il fait partie aussi de ce fameux club.
Ouais.
Et donc effectivement, il y a cette légende qui lui colle à la peau d'avoir vendu son âme au diable.
Bah, disons qu'il l'a bien entretenu aussi, ouais, en même temps. Hein. Donc voilà. Alors c'est vrai que le livre, il est magnifique. Hein. Il est aux éditions Glénat. Il est magnifique.
Le graphisme
magnifique. On a toute la lourdeur de l'atmosphère qui est vraiment rendue par le noir et blanc, puisque là on n'a pas de couleur. On est vraiment sur du noir et blanc. Donc on a encore cette opposition finalement, qui est donc montrée, et franchement c'est vraiment super. Et surtout, petite cerise sur le gâteau, à la fin du livre, vous avez quelques-unes des chansons justement de Robert Johnson, qui donc les textes qui sont donc transcrits en français et en anglais, donc pour ceux qui ont un peu de mal pour comprendre le sens du texte, là vous avez vraiment ce texte, avec en plus des illustrations justement qui sont vraiment magnifiques pour justement venir appuyer le propos de la chanson. Donc ouais, là c'est vraiment quelque chose de très 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 beau, pour un modeste prix de, il me semble apparemment, 19,50 €, quand même ça les vaut largement.
Ouais, parce que vraiment l'objet est superbe. Et bon, bah voilà, une super idée cadeau. Hein.
Super idée cadeau, hein, à mettre dans la hotte du Père Noël, éventuellement, vous lui glissez. Hein, si vous n'avez encore pas envoyé votre petite liste, moi je vous conseille de faire ça, de rajouter sur la petite liste, la petite ligne. Je voudrais, cher Papa Noël, je voudrais Love in Vain, aux éditions Glénat, de Mezzo et J.M. Dupont. Pourrais-tu me l'envoyer, s'il te plaît, petit Papa Noël? Voilà. Yes. Tu vas nous parler d'un
livre. Très beau roman, ouais. Alors un très beau roman qui s'appelle Le Garçon de Marcus Malte. C'est un magnifique livre, tant au niveau de son sujet, l'histoire d'un enfant sauvage au début du XXe siècle, qu'au niveau de son écriture au style très raffiné et poétique, à la fois proche du parler et de l'épistolaire, une vraie jouissance des mots. Je vous lis le résumé. Il n'a pas de nom, il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans un monde aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908, quand il se met en chemin, d'instinct. Il rencontre alors les habitants d'un hameau perdu, puis Brabec, l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, et découvre l'amour charnel avec Emma, mélomane lumineuse. Viendra ensuite la guerre, l'effroyable carnage, paroxysme de la folie des humains et de la civilisation. À sa façon singulière, radicale, drôle, grave, Le Garçon est l'immense roman de l'épreuve du monde. Le personnage du garçon est fascinant. C'est un mélange d'instinct et de sensibilité d'une grande intelligence. Il est souvent décrit de l'extérieur, comme si on cherchait à le cerner, mais qu'on n'y arrivait pas tout à fait. D'ailleurs, les personnages qu'il rencontre et auprès desquels il s'éduque nous en font un portrait assez étonnant, nous donnent des indices de son intériorité, de ce que eux-mêmes peuvent percevoir. C'est donc une enquête pour tâcher de comprendre qui est ce personnage mystérieux. C'est aussi un récit initiatique, fascinant, d'un enfant sauvage. Si, comme moi, vous avez cette fascination pour ces êtres de la nature, mis en marge de la civilisation par des circonstances diverses, vous aimerez ce roman. Les enfants sauvages nous renvoient à nous-mêmes, à nos valeurs et normes culturelles, celles de notre civilisation, mais aussi à notre propre sauvagerie, à la nature et à l'instinct en nous. Mais qu'est-ce qu'être sauvage et civilisé, entre guillemets ? Où commence l'humanité et où s'arrête-t-elle pour laisser place à l'inhumain ? Jusqu'où va notre compréhension et notre tolérance ? Peut-on comprendre et tolérer l'intolérable ? Bref, je vous laisse avec ces quelques questions, mais surtout, je vous renvoie à ce très beau bijou, Le Garçon de Marcus Malt, un très beau bijou à offrir cet hiver à Noël.
Moi, je te propose qu'on fasse une petite pause, pause musicale. Et puis, en même temps, on va faire un petit hommage à un musicien qui est récemment
décédé.
Disparu.
Alors, Steve Bronski, un cofondateur donc, et claviériste du groupe Bronski Beat des années 80 avec Jimmy Somerville. Et donc, on vous propose donc Bronski Beat.
Small Town Boy, sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
La radio qui fait le point. Oh, c'est super, le point.
C'était Small Town Boy des Bronski Beat.
Des Bronski Beat, un petit retour dans les années 80.
Ouais, ouais. Et alors, tu as une autre BD?
J'ai une autre BD, bien oui, oui, on continue un petit peu. Alors là, bien sûr, là, c'est mon côté.
Allez, vas-y,
je me fais plaisir. De Bertaille, Morvan et Riffaut, Madeleine, Résistance, tome 1, La Rose dégoupillée, Air Libre, aux éditions Dupuis. Alors, 1939, dans la Somme, la jeune Madeleine vit heureuse avec son grand-père et ses parents instituteurs, du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, que l'exode ne jette la famille sur la route et que l'adolescente atteinte de tuberculose soit envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Dès lors, Madeleine est bien résolue à réaliser un projet fou et nécessaire, lutter contre l'occupant. Engagée dans la résistance avant sa majorité, torturée et condamnée à mort par la Gestapo, Madeleine Riffaut témoigne pour la première fois sous la forme graphique contre la barbarie nazie. Jean-David Morvan a recueilli les paroles d'une mémoire qui n'a rien oublié et Dominique Bertaille les a mises en images avec sensibilité et précision. Ainsi, La Rose dégoupillée, premier acte d'une trilogie exceptionnelle, se révèle au-delà de la bande dessinée comme un manifeste combattant au service de la liberté. Et ça, honnêtement, c'est vraiment très, 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 très bien fait.
Ah ouais.
Graphiquement, alors là, pour éviter les couleurs chatoyantes, quoi, pour noyer finalement le récit, donc le dessinateur et puis le coloriste ont décidé simplement d'user du bleu, des dégradés de bleu, peu près bleu blanc. Mmh. Donc ça donne quelque chose qui est vraiment étonnant et du coup qui devient aussi très attractif parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est un récit magnifique. Le premier tome, il est vraiment magnifique.
Alors, ah oui, donc il y a deux autres tomes.
Tomes. C'est pas une histoire qui est inventée, hein, si vous avez bien compris. C'est donc Madeleine Riffaut, donc résistante, arrêtée, déportée, donc tout ce qui coche finalement les cases de la défense de la liberté. Et je pense que c'est bien dans ces temps qui sont un petit peu difficiles, où on entend beaucoup de choses, c'est bien de se replonger éventuellement dans la lecture de ce livre, de ces témoignages, pour recentrer un peu les propos de certains.
Je pense que c'est pas mal. De révisionnistes, voire négationnistes.
De révisionnistes, négationnistes. Ah
ouais, qui voudraient nous ramener à une certaine France.
Sans parler jusque-là, mais aussi en même temps, certains raccourcis que l'on fait en disant on n'est pas. Bref.
Complètement
dans les.
Mais oui, et effectivement, là, on a quelque chose. À la fois de beau, de ludique et d'historique.
Oui, ludique, historique, agréable à lire. Et moi, je vous le conseille. Là, c'est le premier tome. Donc, encore une fois, pour la lettre au Père Noël, au Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, pourrais-tu me mettre dans mon petit soulier la bonne bande dessinée de Bertaille, Morvan et Riffaut, Madeleine Résistante, tome 1, La Rose dégoupillée, Air Libre, aux éditions Dupuis.
Top.
Top. Merci. je fais ma liste pour le Noël, hein, même
c'est
si
clair.
Faut en profiter. Alors, tu vas nous parler d'une petite série.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Ouais. Tu veux un petit générique éventuellement?
Oh oui, on peut.
On peut. Alors, un petit générique. Monsieur demande un petit générique. Un petit générique. Bouge pas. Bon, je vais mettre un petit générique. Série. Voilà. Ça, tu vas voir.
Parlons du micro. Nous la remettons pas vite fait.
Ça, c'est de la série.
Ça, c'est de la série.
C'est de la série culte. Et bien, justement. Pour parler d'une série culte encore.
Bah oui. Donc effectivement, je vais vous parler de La Casa de Papel d'Alex Pina, 2017-2021, la saison 5 et donc du coup la partie 2. Les plus célèbres braqueurs espagnols reviennent sur Netflix après une saison 4 en dessous des précédentes. J'étais sceptique sur les 5 premiers épisodes de la saison 5. Et mercredi 22 septembre de cette année, donc je vous en parlais. Cette dernière saison a tendance à sortir encore plus les violons qu'avant. Elle a tendance à s'étaler en émotions et mélodrames. Mais en même temps, écoutez, il faut ce qu'il faut parce qu'il y a certaines disparitions tragiques, je ne peux pas en dire plus, mais qui le méritaient. Mis à part ce petit bémol, cette dernière saison a vraiment relevé le niveau, des rebondissements, des rebondissements surprenants, une narration toujours aussi fine et intelligente, des personnages tantôt drôles, tantôt graves, naïfs, tragiques à la fois, des héros au bout du compte. On écoute un petit peu la bande-annonce.
Lisboa para profesor.
Hola, Lisboa.
El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros.
Los tenemos.
¡Capitán!
Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos.
Te pedí, te dije.
Sin padre. Sin plan. Y sin esperanza.
Estamos contra las cuerdas.
Pero todavía no estamos muertos.
Je vous ai dit, hein, on sort les violons. L'action est toujours au rendez-vous.
Ça va chier grave, mon collègue.
Ouais, c'est clair. Le braquage s'est même transformé en guerre ouverte. Le mélodrame est toujours là. Avec même quelques accents à la Almodovar qui ne saurait vous déplaire. Mm-hmm. Quelques accents mélodramatiques et humour absurde, comme le réalisateur espagnol. Et surtout, des flashbacks qui, selon moi, font tout l'intérêt de la série et qui continuent de creuser les personnages et de nous les rendre encore plus attachants. Je vous lis le synopsis. Le gang est enfermé dans la banque espagnole depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres. Après avoir perdu l'un des leurs, le professeur a été capturé par la terrible et tortionnaire Alicia Sierra, et pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusque-là, l'armée. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte plus inattendue qu'il n'y paraît. La faiblesse de cette saison 5, dans les 5 premiers épisodes, du moins, est son scénario, déjà vu et répétitif. Cependant, les 5 derniers épisodes relèvent le niveau. L'intrigue monte en puissance et en complexité. En revanche, sa force, c'est son procédé narratif, notamment ses flashbacks qui nous révèlent petit à petit le passé et la personnalité des personnages, mais aussi les fameux plans du professeur. Ici, on introduit un nouveau personnage très intéressant qui aura son rôle à jouer lors du grand final. Je ne vous en dis pas plus. Les fans d'action et de combats guerriers apprécieront le déploiement militaire qui fait irruption et met en valeur l'héroïsme des personnages. Cependant, un événement surprenant va advenir qui n'est pas sans rappeler effectivement ce mélange almodovarien entre mélodrame et humour absurde. Cet événement va remélanger les cartes. Et un autre événement va advenir et va rebattre encore les cartes. Bref, attendez-vous à être tenu en haleine jusqu'à la fin. J'avoue avoir une certaine faiblesse pour cette bande de braqueurs qui s'attaque au cœur du véritable pouvoir actuel, la finance et l'argent. Ils avaient commencé par braquer la Fabrique nationale de la monnaie. Maintenant, ils refont de l'or de la Banque d'Espagne. Comment un braquage peut-il devenir légitime ? D'habitude, on aime les braqueurs parce qu'ils nous donnent des frissons du mal, du péché, de la transgression de l'interdit. Mais là, on les trouve justes et légitimes, c'est-à-dire qu'on accepte ou on approuve leur vision éthique. Comment est-ce possible ? Comment la série a-t-elle rendu cela possible ? Bon, d'abord, il faut rappeler que les mythes de Robin des Bois ou de Zorro ont toujours exercé une certaine fascination. Ici, nous avons en effet une bande juste comme Robin des Bois, courageux comme Zorro et ingénieux comme Arsène Lupin. Il y a aussi le double contexte historique, la crise économique des subprimes de 2008 qui a frappé si durement l'Europe, mais particulièrement l'Espagne, et qui a vu des gens jetés à la rue, obligés de continuer de rembourser le crédit d'un logement dont ils avaient été expulsés, mais qui a vu aussi des actionnaires s'enrichir comme jamais, et où nous avons vu nos États renflouer les banques en déroute financière, avec bien sûr l'argent de nos impôts du coup. Bref, une crise économique qui a pu apparaître comme une grande injustice. Mais il y a aussi cet or de la Banque d'Espagne, pillé au peuple amérindien durant des siècles par la couronne espagnole. Cet or volé au prix du sang des peuples autochtones des Amériques. Encore une injustice. Et du coup, voler un voleur, est-ce encore du vol ? Hein ? Qu'est-ce qu'on pense ?
Je sais pas.
On sait pas. Hein ?
On sait pas.
Joker.
Joker.
Où se trouve la frontière entre la légalité d'une situation de contrôle qu'exercent les banques sur nos vies et la légitimité d'un acte violent, mais dont la portée est symbolique et collective ? Il est intéressant que la série insiste sur un point crucial. Dans les premières saisons, l'argent fabriqué par les rotatives de la Maison de la Monnaie à Madrid n'était pas vraiment volé, ni à l'État ni au peuple, puisqu'il était fabriqué de toutes pièces. Il était même là pour enrichir, bien sûr, nos joyeux malfrats, mais aussi pour être redistribué au peuple dans la rue, ou encore pour démontrer tout simplement que ces papiers, la Casa de Papel veut dire la maison de papier, n'avaient en soi aucune valeur. Ce n'était que du papier. Ils n'ont de valeur que celle qu'on veut bien leur reconnaître. De même, dans cette saison 5 et les deux précédentes, l'or de la Banque Nationale d'Espagne a une valeur plus relative qu'on ne le croit. Au fond, l'or, c'est quoi ? Un métal. Certes précieux, mais c'est juste un métal. C'est surtout une valeur dans laquelle on place notre confiance, dans laquelle les marchés financiers placent leur confiance comme gage de stabilité d'un pays pour investir dans un pays. Sa valeur est donc plus symbolique que réelle. Au fond, on pourrait très bien changer alors de système et placer notre confiance dans autre chose, dans quelque chose de tout aussi symbolique. Pardon, j'entends la chanson Bella Ciao. Un autre métal moins rare, des œuvres d'art, une forêt primaire, un patrimoine matériel et ou immatériel. Bref, on pourrait placer notre confiance dans autre chose. En tout cas, je vous invite à revoir ou à voir La Casa de Papel saison 5 sur Netflix. Merci de votre écoute.
C'est avec Bella Ciao que l'on va dire ciao nous aussi.
Et oui, qu'on va faire un Bella Ciao.
Bella Ciao, ciao à nos auditeurs, auditrices. Passez de bonnes fêtes de Noël.
Et on se retrouve sans doute.
Et oui, à peine oui, de Noël.
Et on se retrouve après Noël.
Après Noël.
Après Noël. Donc c'est pour ça. Donc, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Et puis on vous dit à très bientôt.
Topette les bandits. À bientôt.
À bientôt.
Aquellos abrazos no eran solo la celebración de un triunfo, ni el homenaje sentido a los que habíamos caído por el camino. Eran el clamor de un puñado de personas insignificantes que habían logrado sacar 90 toneladas de oro por una tubería. Lo que acabábamos de hacer era lanzar al mundo un mensaje de esperanza. Se puede lograr lo imposible.
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.